matinée qu'on passe ensemble, Seigneur. C'est tellement précieux de se retrouver en Église. Certains arrivent ici avec la joie même d'un nouveau bébé, Seigneur, la joie de projets à venir. D'autres avec le cœur gros et on a besoin de se retrouver en famille, Seigneur. On veut te demander de nous bénir ensemble, d'apporter ce matin ta paix, ta joie, ta consolation, celle que toi seul sais donner, Seigneur. Et on te prie de nous bénir aussi dans nos réflexions avec Francis Schaeffer, alors qu'on veut aimer, qu'on veut accepter, Seigneur, d'apporter ce message qui est contrariant, qui est dur à entendre à celui qui ne te cherche pas, celui qui n'est pas tourné vers toi, Seigneur. Alors, je te prie de nous bénir ensemble ce matin. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Vous êtes dans le cours « La mort dans la cité ». Introduction à la pensée de Francis Schaeffer. Le monde contemporain est-il en chute libre? Nous en sommes à la leçon 5, « Persistance de la compassion ». Et s'il y en a qui sont ici, qui étaient dans le cours de membres, bien c'est ça, le cours va suivre son cours à compter de la semaine prochaine, d'accord? Le professeur avait attrapé une grippe d'homme, puis c'est un homme, fait que c'est difficile de s'en remettre. Ce matin, on arrive à peu près au terme de notre survol ou des éléments essentiels qu'on va chercher dans le livre du prophète Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie, on va résumer ça ensemble ce matin, qu'est-ce que Jérémie a à nous apprendre à nous pour vivre l'Évangile, annoncer l'Évangile, incarner ce que c'est être un disciple de Jésus-Christ à notre époque, dans notre culture, auprès de nos contemporains. Qu'est-ce que ça coûte? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Jérémie? Jérémie qui était dans une époque qu'on pourrait qualifier de post-chrétienne, entre guillemets. D'accord, Jérémie, on est dans l'Ancien Testament, c'est avant la venue de Christ, donc à proprement dit, c'est pas post-chrétien, mais la comparaison que Francis Schaeffer fait, c'est une société qui a connu une vision du monde selon Dieu, qui a connu le Dieu créateur, qui a reçu toutes les instructions sur ce Dieu-là et qui s'en est détourné. Qui s'en est détourné par ses chefs, par ses autorités, par la population. Et donc, lorsque Jérémie exerce son ministère, il exerce son ministère envers le peuple de Dieu à un moment où le peuple de Dieu s'est entièrement détourné de Dieu. Et sur plusieurs générations, sous son ministère, il a vu passer 5 rois qui, tour à tour, ont renié Dieu, ont renié l'Éternel de toutes sortes de manières, parfois de manière assez hypocrite. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils disaient qu'ils étaient plus le peuple de Yahvé. Mais dans les faits, ils adoraient d'autres dieux. Dans les faits, leur religion, c'était surtout justement une forme religieuse plutôt qu'un cœur qui est véritablement pieux, religieux, consacré à Dieu. Et donc, la comparaison tient dans notre société à nous, où on se retrouve dans une société qui se définit elle-même comme post-chrétienne. D'accord? Les sociologues, les anthropologues, les penseurs qui réfléchissent à notre société, des grands penseurs comme Charles Taylor, canadien, qui réfléchissent sur la société occidentale et, je vous dirais, encore de manière encore plus évidente sur la société québécoise, eux-mêmes vont parler d'une société post-chrétienne. Alors, dans notre esprit à nous, comme évangéliques, Lorsque tu étudies la Bible puis tu comprends qu'est-ce que c'est l'expérience de la nouvelle naissance, quelle est la foi qui sauve, là je suis vraiment dans notre jargon, d'accord? Bien, on regarde le Québec puis on dit, bien, le Québec n'a jamais été chrétien. Vous me suivez? Dans un sens, c'est ça qu'on se dit. On se dit, ouais, mais le Québec n'a jamais connu le christianisme, donc il n'a pas rejeté le christianisme. Mais vous voyez, non, on ne va pas dire, par exemple, que le Québec n'a pas rejeté le christianisme, parce qu'en même temps, c'est clair qu'ils ont rejeté, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Alors, si le Québec a rejeté l'Église catholique comme une foi imposée, en même temps, à travers ça, il y a tout un ensemble de valeurs qui constituent ce qu'on appelle aujourd'hui une vision du monde. Il y a tout un ensemble de valeurs qui ont été rejetées avec ça. Des valeurs morales, des valeurs d'absolus moraux, le bien, le mal, Est-ce qu'on parle d'homosexualité, qu'on parle d'orientation sexuelle, qu'on parle de vie, de mort, de droit sur la vie, de droit sur la vie d'un être qui est en formation dans le ventre d'une femme, d'un vieillard qui a plus plaisir à la vie, est-ce qu'il a le droit sur sa propre vie? Toutes ces questions-là sont en train de se positionner, la société est en train de se positionner, souvent en désaccord, mais par rapport à une vision du monde précédente, qui, dans leur histoire, qui était une vision du monde chrétienne. Est-ce que vous me suivez? Après, postpartum. Donc, ça va? Après. Oui, David. Oui, oui. OK, donc si je comprends bien la nuance que M. Lenoir fait, c'est qu'en réalité, on ne peut pas effacer notre histoire. Et donc, si cette société-là a été fondée sur des valeurs chrétiennes, il va continuer à avoir ce fondement-là qui va être à quelque part, même si on en rejette bien des éléments. Est-ce que c'est un peu ça l'idée? Oui, OK, je le comprends. Là où je dirais qu'on est dans une époque post-chrétien, c'est que le fondement du christianisme, c'est qu'il y a un Dieu auquel on voue un culte. Il y a un Dieu que je reconnais comme mon créateur, que j'adore, que je sers. Là, dans le christianisme, je vais plus loin encore que le judaïsme. Dans le christianisme, ce Dieu-là s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Et donc, dans ce sens-là, je dirais qu'on est dans une société post-chrétienne, dans le sens que l'essence même, le fondement même, l'origine de cette foi-là est rejetée comme autorité. Mais c'est vrai que dans la culture, il y a plein de traces qui sont là. D'accord? Dans toute la compréhension de la compassion, Nelson Mandela a été un bel exemple de ça. D'accord? Dans sa manière de gérer le conflit là-bas, tout ça, il y a vraiment cette idée-là, cette notion-là de pardon, sans qu'il y ait nécessairement la possibilité pour l'individu lui-même. C'est-à-dire que l'individu va refuser de chercher une vengeance, de chercher une absolue justice. Puis il va renoncer à ça. D'accord? C'est bon. Donc, dans ce sens-là, notre société ressemble à celle sur laquelle Jérémie a prêché. Et puis, à l'époque où Jérémie prêchait, il y avait pas plus de conversion ou de nouvelle naissance qu'il n'y en avait au Québec sous le régime de l'Église catholique. D'accord? On est avant la venue de Christ, et donc même dans le peuple de Dieu, cette idée-là que l'Esprit-Saint vient faire sa demeure, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, n'est pas présente avant l'avènement de Christ. Et donc, les parallèles sont vraiment, vraiment frappants. Et là où Schaeffer nous conduit en terminant avec Jérémie, avant d'aller faire un résumé de ce qu'on a à apprendre de Jérémie, c'est qu'il nous dit, bien, si vraiment notre société est comparable à celle sur laquelle Jérémie a été placé comme prophète, mais on doit accepter comme chrétien et on doit s'attendre comme chrétien à être traité de la même manière que Jérémie. D'accord? Ça ne sera pas le cas pour tout le monde. On n'aura pas tous à mourir pour la foi ou on n'aura pas tous à être mis en prison. Mais le point de Francis Schaeffer, c'est si vraiment la comparaison tient la route entre Israël sous le ministère de Jérémie puis le Québec en 2015, pourquoi est-ce que le traitement que les chrétiens recevraient serait beaucoup plus gentil, beaucoup plus doux puis beaucoup plus tolérant si en effet, notre société dit que tout ce qui n'est pas une position qui accepte tout, c'est de l'intolérance. Alors, vous avez déjà entendu peut-être l'idée de Don Carson, l'intolérance de la tolérance. Mais on est confronté avec ça quotidiennement, sur le marché du travail, dans les discussions pendant l'heure du lunch, où on jase avec les gens. Puis, qu'on s'affiche ou non, on perçoit très bien que si quelqu'un avait le malheur de dire qu'il y a quelque chose qui est bien ou qui est mal, à part de dire que tout est bien, bien à ce moment-là, cette personne-là serait perçue comme étant intolérante. Et il va avoir des prises de position très claires. C'est intolérant ce que tu es en train de dire là. C'est inacceptable ce que tu es en train de dire là. Ce n'est pas vrai. Beau. OK. Merci pour ta tolérance et merci pour le fait que tu acceptes vraiment toutes les positions. Voyez-vous? Alors, c'est là. C'est là. On n'est pas rendu à une étape où notre société va nécessairement nous persécuter physiquement. Mais ce que Francis Schaeffer dit, il dit, si vraiment la société vous trouve super cool, là, posez-vous la question si vous avez perdu le message en cours de route. D'accord? Parce que là où l'Évangile est bien prêché, est entièrement prêché, il y a à la fois un attrait. Moi, je crois que l'Évangile est attirant pour à peu près tous les êtres humains, parce qu'il y a des aspects dans l'Évangile qui font écho à ce qu'il y a de plus noble dans l'être humain. On a été créés tous à l'image de Dieu. Mais en même temps, il y a dans l'Évangile quelque chose de profondément offensant pour celui qui refuse de se voir comme un pécheur, qui refuse l'autorité de Dieu, qui refuse qu'il y ait un bien, qu'il y ait un mal. Là, l'Évangile devient très, très offensant, par contre. D'accord? Persévérer dans la compassion sans se taire pour se mettre à l'abri eut de graves conséquences pour le prophète Jérémie. Et l'Église se doit de s'engager sur la même voie si elle veut être présente pour sa société et son époque. Alors, quelques passages dans Jérémie 22, on lit « Et Pashur frappa Jérémie le prophète et le mit dans la prison qui était à la porte supérieure de Benjamin dans la maison de l'Éternel. » Jérémie, dans le fond, là, pour faire une histoire brève, Jérémie, ça va être une histoire où tout va aller de pire en pire pour lui. Au début, il va être jeté dans une prison publique, il va finir dans la prison du palais, il va après ça être jeté dans une citerne où il est à peine abreuvé. Et on n'a aucun indice que son sort va jamais s'améliorer de son vivant. Puis on a absolument, c'est très très clair en fait, qu'il n'y aura jamais de repentance du peuple de Dieu sous le ministère de Jérémie. Jamais. Jérémie met en garde son peuple et leur annonce un jugement divin imminent. Et alors que ses prophéties se réalisent, Israël voit les prophéties de Jérémie se réaliser, ça aurait dû être un moment de prise de conscience. D'accord? Ça aurait dû être un moment de prise de conscience. On le jette en prison pour ne plus l'entendre. J'avais sorti des images, je pense que je ne les ai pas transmises, là, mais on a des palais énormes où il y avait des prisons. Et à l'intérieur des palais, et généralement, c'était les prisonniers politiques qui étaient gardés là, c'était les prisonniers les plus dangereux. Vous connaissez l'expression « garde tes ennemis très, très près de toi », tes amis près de toi, puis tes ennemis encore plus près, juste pour être certain que tu les entends, puis tu peux les contrôler. Et donc, c'est ça qui s'est passé avec Jérémie. Il a été mis dans une prison, mais il n'a pas été laissé juste dans une prison publique. Éventuellement, il a été mis dans une prison où on pouvait être certain d'avoir un contrôle absolu sur lui pour qu'il n'entraîne pas le peuple à se rebeller contre l'autorité, ce qui aurait été extraordinaire dans le sens que ça aurait été de la repentance de la part d'Israël. Puis les chefs religieux, la parole de l'Éternel, je m'excuse, Jérémie 33.1, fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Alors là, il est en prison. Les chefs religieux politiques veulent sa mort tout simplement. Alors ils vont attenter à sa vie, ils vont fomenter pour pouvoir réussir à le mettre à mort. 38.4. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville et tout le peuple en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple, il ne veut que son malheur. Parce que le message de Jérémie, c'était malheur, malheur. Donc, il ne veut que son malheur. Mais non, il voulait qu'il se repente. Est-ce que c'est ça qu'on communique aux gens autour de nous, malheur, malheur? Est-ce qu'on a le courage d'annoncer ce message-là? Il y a une manière de le faire. C'est mon amour, ma compassion, ma tendresse, mon affection, pas de la condescendance, de l'orgueil, du mépris, du jugement. Au contraire. Mais est-ce que j'ai le courage? Cette semaine, j'étais en train de préparer la leçon, puis je pensais, moi, aux gens auprès de qui j'ai témoigné tellement de fois autour de moi, mes proches. Et je me posais la question, est-ce que j'ai baissé les bras? Est-ce que j'ai baissé les bras de les mettre en garde de ce qui s'en vient pour eux? Puis j'ai décidé de prendre une autre stratégie. Je vais les gagner sur le long terme seulement avec l'amour. Mais je ne suis plus jamais le prophète dans ma maison, par exemple. Détesté pour avoir voulu leur bien. En fait, toujours Jérémie a voulu le bien de son peuple. Il a cherché à le ramener vers Dieu, souhaitant le voir vivre dans la paix et l'abondance. Mais par son message, il s'opposait au mirage présenté par les chefs religieux qui annonçaient la paix, alors que le prophète annonçait le jugement de Dieu. Jérémie ne cherchait que leur bien, mais on disait qu'il voulait du mal au peuple et souhaitait leur malheur. Alors, vous rappelez le discours des chefs religieux, c'était « paix, paix ». Il était là pour endormir le peuple et puis lui faire croire que la paix se trouvait loin de Dieu, il n'y avait pas de problème, ils allaient être en paix. En fin de compte, il est livré carrément entre les mains de ses ennemis. Jérémie 38, 5 et 6, « Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie, le jetèrent dans la citerne de Malchijor, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne. Il y avait de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. On n'a pas les détails de ces conditions d'emprisonnement, mais c'est vraiment une situation qui était assez désespérante. Où est-ce que ça va conduire Jérémie? Donc là, on dit, OK, c'est un gars qui n'est pas fait de la même trempe que nous. C'est un prophète, il y avait l'Esprit de Dieu sur lui, il y avait une force inégalée. Mais non, je veux dire, vous connaissez Lamentation de Jérémie? Après Jérémie, Jérémie a écrit Lamentation de Jérémie. D'accord? Et donc, cette souffrance-là physique, à cette souffrance-là physique va s'ajouter une souffrance plus grande encore. C'est celle qui est psychologique et morale. Celle de voir son peuple dans un processus d'autodestruction. Celle d'être lui-même personnellement rejeté. On s'en prend à sa personne constamment. La plus grande souffrance de Jérémie fut certainement de ne jamais voir la repentance et le changement subvenir. Il le souhaitera toute sa vie et souffrira amèrement pour avoir porté ce message à son peuple, sans jamais le voir se repentir. Cela le conduisit par moments dans de grands découragements. C'est assez terrible ce que Jérémie dit au chapitre 15, verset 10. « Malheur à moi, malheur à ma mère de ce que tu m'as fait naître, homme de disputes et de querelles pour tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête, et cependant tous me maudissent. » Il dit « Je dois rien à personne, je suis là pour le peuple, et tout le monde me maudit en face. » Puis moi, ça me faisait du bien de lire que Francis Schaeffer lui-même partageait que souvent, il était profondément découragé lorsqu'il considérait l'Occident, lorsqu'il considérait l'Europe francophone. Francis Schaeffer partage combien il s'identifie avec un profond découragement de Jérémie, avec le profond découragement de Jérémie, alors que lui-même cherchait tant à conduire les gens à la repentance. Ce découragement est probablement inévitable par moments alors que nous exhortons ainsi nos contemporains. Donc, moi je crois, je l'ai déjà partagé avec l'Assemblée, je crois qu'être chrétien sur la terre, c'est porter deux sentiments en soi. C'est apprendre à vivre avec une espèce de contradiction intérieure. Je vis une paix et une joie profonde, puis je porte constamment en moi une tristesse profonde. Je pense que c'est ça le christianisme, sur la terre. Quand le Seigneur va venir nous chercher... Je crois que la réalité pour le christianisme, pour les chrétiens, c'est de vivre deux réalités en même temps. On vit une paix, une joie profonde, parce que je sais, on va le voir ce matin dans Romains 5, je sais que je suis en paix avec Dieu, je connais mon éternité, je sais que j'ai un Papa céleste qui veille sur moi. Donc je suis en paix. Je suis en paix, puis quand je regarde le monde qui va mal, comme je mentionnais, je ne suis pas sur le dos en disant « mais, où ça s'en va, tout ça, qu'est-ce qui se passe, on ne l'avait pas vu venir. » Non, c'est tout prévisible, il n'y a pas de problème, j'ai la paix. Mais en même temps, je crois que le chrétien est appelé à être le cœur de Dieu sur la terre. Parce que Dieu nous a donné ses yeux et son cœur pour voir comme lui. Et donc, ça veut dire qu'on doit porter une tristesse constante qui va être là. Quand on lit les lettres de Paul, c'est ça qu'on entend. On entend à la fois une joie et une paix profonde pour Paul lui-même. Puis en même temps, il est constamment en train de se préoccuper, il est constamment en train de prier. Il dit lui-même pour Israël, son cœur est brisé, il voudrait mourir lui-même pour le salut d'Israël. D'accord? Et donc, je crois que ça, c'est l'état des chrétiens, c'est l'état du christianisme. Un christianisme où on va nous présenter une espèce de joie perpétuelle, une espèce de comprenez, là, des fois, je parle de l'évangile de la prospérité, l'autre fois, je parlais de Joel Osteen, mais c'est ça, c'est une espèce de hop, la vie, là. C'est ça, le christianisme. Ben oui, oui, quand je regarde mon éternité, oui, quand je regarde la croix, oui, quand je regarde mon salut, il n'y a pas de doute. Mais quand je pense à mes proches, c'est pas hop, la vie, pantoute, là. C'est down en enfer, tu sais. Fait que c'est ça. Là, je porte ça en moi. Et grandir en maturité dans notre vie chrétienne, c'est vivre avec ces deux réalités-là. Continuellement, pour devenir des intercesseurs, pour devenir des messagers, des prophètes comme Jérémie, qui vont vers les gens, puis qui partagent ça. D'accord? C'est fatigant, ça, parce que ça veut dire que même lorsque le christianisme est bien représenté. Je ne parle pas d'une religion moralisatrice où je suis toujours en train de faire des sermons. Je parle d'une incarnation du message chrétien avec grâce, avec amour, avec sainteté, avec compassion, avec douceur. Même dans ce cas-là, un chrétien, à un moment donné, c'est comme fatigant à voir à côté de toi. Parce que les gens autour de toi, à un moment donné, ce qu'ils se disent, c'est « OK, c'est cool, on a du fun, mais dans le fond, je le sais, tu penses que je ne suis pas correct. » Hey, je peux te raconter des chansons si tu veux. Je peux te prêcher l'évangile de la prospérité. Je ne rendrai pas service, mon ami. Comprenez? Et donc, je crois qu'il faut qu'on apprenne à porter ça en nous pour être vraiment des intercesseurs, pour être vraiment des messagers. Et il n'y a pas de... Ça va avoir de la sombre, là, ce que je vais dire, mais c'est super important. Il n'y a pas de porte de sortie à ça. La porte de sortie à ça, c'est lorsque je m'en vais au ciel, lorsque Jésus vient me chercher. Parce que si ma porte de sortie, c'est que mes enfants soient tous au Seigneur, pourquoi juste les miens? Pourquoi pas la terre entière? C'est pas ça que Paul nous a dit, priez pour le salut de vos enfants, point blank, ça finit là. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de porte de sortie parce qu'il va toujours en avoir des damnés jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il n'y a pas de porte de sortie. On est là pour vivre et incarner la vie de Christ sur la terre. Et donc, on doit vivre avec cette dualité-là en nous, cette contradiction-là en nous, où il y a une paix, une joie profonde. Je connais mon éternité, j'ai l'espoir de la gloire en moi. Je connais la gloire qui m'est réservée. Puis je porte en moi ce fardeau-là sur mon cœur. Autrement, mon message, je vais l'abandonner. Et si l'Église de l'espoir doit être une Église qui va être vraiment une incarnation de l'Évangile pour la ville de Longueuil, on va porter les deux constamment. Est-ce que ça fait de nous des gens qui s'en vont avec la mine patibulaire, triste, puis bouh? Mais pas du tout. Pas du tout, je sais au moins où est-ce que je m'en vais. Mais en même temps, ce n'est pas une légèreté inconsciente. C'est une paix profonde où je porte aussi cette souffrance-là de voir ma société. Et c'est pas mon rôle à moi comme pasteur, c'est pas le rôle simplement des anciens de vivre ça, c'est pas vrai. On n'est pas comme les seuls forts. Toute l'Église de l'espoir, le jour où toute l'Église de l'espoir vit ça, là, avec cette dualité-là, ces deux réalités-là en elles-mêmes, là, on est tous en train de prier chaque jour, chaque semaine, pour le salut des âmes à Longueuil. Comprenez? On est tous les jours, on est en train de chercher des opportunités pour apporter ce message-là. Et il n'y a pas de... C'est pas une bonne idée de me fermer à ça parce que c'est trop lourd à porter. Si nous, on ferme les yeux, qui va le faire? Voyez-vous? Si ce n'est pas nous qui portons ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vis ça? Bien, je deviens un intercesseur. Ça veut dire que constamment, quand ces fardeaux-là sont déposés sur mon cœur, je les prends puis je viens intercéder. Je m'en vais vers mon Père Céleste. Je viens intercéder en leur faveur et je dépose ça aux pieds de Dieu. Puis là, je reviens à la joie de mon salut. Puis hop, je suis encore mis en contact avec cette réalité-là. Je le refuse pas, ça. Je l'accueille. Ça fait de moi un intercesseur. Je m'en vais vers mon Père, j'intercède, je dépose ça aux pieds de mon Père. Je suis appelé à faire ça jusqu'à ce que le Seigneur vienne me chercher. Ça va? C'est bon? Il faut le faire. Il faut le faire. Autrement, l'évangile qu'on va présenter, les amis, là, c'est un évangile bonbon qui n'a aucun rapport. Puis on va juste dire à tout le monde, paix, paix. Puis rendu de l'autre bord, le Seigneur va nous dire, mais vous étiez là, puis vous leur avez dit n'importe quoi. Mais ça veut dire qu'il y a de la souffrance. Ça veut dire qu'il y a de la souffrance qui vient avec ça. Et il faut accepter cette réalité-là. Parce qu'on est là pour incarner, représenter Christ auprès de notre société. Fait que Jérémie en vient par moments à maudire le jour où il est né, au bas de la page 2, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. C'est dans des moments de découragement, des moments de folie. Et tous ceux qui ont été appelés à jouer ce rôle-là dans l'Ancien Testament, sur le peuple d'Israël, plusieurs d'entre eux, on le trouve. On le trouve avec Moïse, on le trouve avec David, on le trouve avec Jérémie, on le trouve avec Élie. Mais la réalité, là, c'est que ces gens-là avaient l'Esprit Saint sur eux, puis c'est joyeux. Dieu avait prophétisé, avait annoncé qu'un jour, tout le peuple de Dieu aurait le Saint-Esprit sur eux. Et donc, chacun d'entre nous, si on est chrétien, si on a l'Esprit de Dieu en nous, on est appelé à porter ce message-là puis à vivre ça avec ce qui vient avec. Parce que c'est ça qui fait de nous des intercesseurs. Donc, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir puis qui est en larmes parce que les gens dans sa famille ne sont pas encore au Seigneur puis est triste, je suis triste, je pleure avec la personne. Puis en même temps, je sais que la personne est à la bonne place. Son cœur est à la bonne place. Vous comprenez? C'est pas que je veux l'amener à sortir de là vraiment. Je veux pleurer avec elle. Ce n'est pas le temps de se réjouir. On attend une nouvelle naissance. Quand la naissance sera venue, on se réjouira. Au haut de la page 3, il n'y a pas de contradiction. On peut très bien être fidèle à Dieu et se sentir accablé par le découragement devant le spectacle que nous offre le monde. À vrai dire, si nous n'éprouvons jamais ce sentiment d'écrasement, nous pouvons nous demander si nous luttons avec compassion et réalisme ou si nous nous amusons à pourfendre l'air avec des épées de papier, c'est-à-dire qu'on a un message qui est plus vrai. Si vous aimez Dieu et les hommes, si vous éprouvez pour eux de la compassion, vous aurez un prix réel à payer sur le plan psychologique. Beaucoup de gens semblent s'imaginer que tout cela est facile quand le Saint-Esprit est à l'œuvre. J'ai mis ça sur Facebook cette semaine. Qu'il se trompe lorsque le Saint-Esprit agit, l'homme est consumé. Et dans le sens que celui qui porte l'Esprit de Dieu en lui meurt à lui-même. Pour la gloire de Christ, pour la gloire de Dieu, mon cœur vibre au même rythme que le cœur de Dieu, puis ma vision du monde autour de moi, c'est la même vision que Dieu a, puis Dieu n'est pas sur le party dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a à retenir de Jérémie pour nous? Un résumé en terminant. Il y a des époques où il est essentiel d'apporter un message négatif si nous voulons annoncer l'Évangile. M. Schaeffer dit que s'il a l'opportunité d'annoncer l'Évangile, si on lui donne une heure avec une personne, il passe 45 minutes à annoncer un message négatif, puis 15 minutes sur une bonne nouvelle. Penserait à ça, je suis sûr que la moitié de la salle n'est pas d'accord avec M. Schaeffer. Mais lui, c'est ça qu'il dit, c'est son expérience. C'est un gars qui a annoncé l'Évangile dans les milieux universitaires, qui a annoncé l'Évangile aux gens tous les jours, parce que c'était une mission, l'abri en Suisse, c'était une mission très, très incarnée, très, très terre-à-terre. Et il dit, notre société pense qu'il n'y en a pas de mauvaises nouvelles. Notre société pense qu'ils ont juste, je l'ai dit à plusieurs reprises comme ça là, dans les dernières semaines, pense qu'ils ont juste besoin d'un petit correctif, un petit ajustement dans le gouvernail pour pas perdre la bonne direction. Mais ils n'ont pas besoin d'un petit ajustement, vous comprenez? Le pont Champlain s'est écroulé. Puis je suis en train de m'engager sur le pont Champlain. Vous me déviez de combien de degrés pour me sauver la vie? 1, 2, 3 degrés, un petit ajustement? Evil can evil. Je m'en vais sauter par-dessus le fleuve. D'accord, ça prend... Vous comprenez? Et t'es mieux de crier vite à part de ça ton message négatif. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il y a des époques où il est essentiel d'apporter un message négatif si nous voulons annoncer l'Évangile. C'est pas cool parce que les gens ne veulent pas entendre des messages négatifs. On s'entend? Ça sonne négatif. Je pense qu'ils n'ont pas le goût d'entendre ça. Mais vous n'arriverez pas à la bonne nouvelle. Ce que vous allez avoir, ce que vous allez annoncer, si vous n'annoncez pas le fait qu'ils sont étrangers à Dieu, ils sont étrangers maintenant et pour l'éternité, Dieu va leur demander de rendre des comptes pour leur vie. Dieu est juste, Dieu est saint, ils n'auront aucun accès à Dieu. Si vous ne dites pas ça, ce que vous allez réussir à dire, c'est qu'il y a des bons principes dans la Bible pour être heureux. C'est vrai. Le premier bon principe, c'est tu es pourri, tu es damné, tu es un pécheur, tu t'en vas en enfer, tu es un fils du diable, tu n'es pas un fils de Dieu. Ça, c'est le premier bon principe dans la Bible pour être heureux. Si tu n'acceptes pas ce principe-là, la Bible ne peut pas t'apporter le bonheur. D'accord? Des faux docteurs, des faux prophètes peuvent t'apporter un message de soi-disant bonheur à partir de la Bible, mais ce n'est pas la Bible qui t'apporte le bonheur, c'est pas vrai. Deuxièmement, il nous faut faire face avec beaucoup d'amour et de lucidité au fait que notre société se trouve sous le jugement. Nous ne devons pas penser, dans le sens de penser des plaies à la légère, les plaies de notre société, mais insister sur la réalité du mal. Toutefois, ce message, c'est avec larmes et avec amour que nous sommes appelés à le proclamer. Nos paroles et notre attitude doivent, par l'action du Saint-Esprit, être une démonstration simultanée de la sainteté et de l'amour de Dieu. À partir du moment où j'annonce l'Évangile à quelqu'un, puis j'oublie que j'étais à 100% dans son camp. Et si ce n'était pour la grâce de Dieu, je serais encore dans son camp. À partir du moment où j'oublie ça, il y a quelque chose qui change dans notre attitude. La compassion, la grâce, la douceur, l'amour se tait, puis on commence à avoir un regard condescendant sur les gens. On les regarde de haut. Et ça, c'est inacceptable parce que ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Dieu qui vient vers celui qui ne peut pas venir vers lui. Fait qu'à partir du moment où tu regardes quelqu'un de haut, tu es en train de lui dire que moi, Yannick, je suis parvenu à ça, je suis arrivé à faire ça. Cabochon, pourquoi tu ne fais pas ça? Épais, pourquoi tu ne te repens pas? J'annonce plus l'Évangile. Vous comprenez? Si vraiment il y a du mépris, je regarde les gens de haut, moi je vous dis, l'Évangile que vous annoncez, c'est une hérésie. C'est une fausse doctrine, même si vous dites toute la vérité à part de ça. C'est une fausse doctrine. Parce que l'Évangile dicte que je sois extrêmement humble, rempli de compassion lorsque je vais annoncer l'Évangile. Ça ne m'empêche pas de dire des choses dures. Ça ne m'empêche pas de dire les choses telles qu'elles sont. L'homme moderne est conscient que rien ne va plus, mais personne ne lui en donne la raison. C'est aux chrétiens qu'il incombe de montrer ce qui est faux, d'expliquer pourquoi nous sommes acculés au pied du mur et pour quelle raison notre culture est de plastique. Lorsqu'il parle de ça, j'ai juste mis cette citation-là, mais il est en train de dire comme tout est à la surface, tout est en apparence, tout est dans l'esthétique, tout est dans l'image. Et dans le fond, on sait que tout ça tient très, très mal. Puis c'est ça la difficulté que les philosophes ont actuellement, c'est qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de fondement philosophique pour expliquer la charité. Ils n'ont pas ce fondement-là, ils ont renié le christianisme, ils l'ont abandonné, et ils cherchent ce fondement-là, sur quoi on va construire ça. D'accord? Alors, c'est une société qui est plastique, dans le sens qu'elle tient sur un air d'aller, parce qu'elle avait été fondée avec une vision du monde chrétienne, et puis là, on est très, très, très dans le superficiel, et c'est à nous d'apporter ce message-là. Troisièmement, donc premièrement, il y a des époques où il y a un message négatif. Deuxièmement, il faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de lucidité. Donc, ce n'est pas un ou l'autre. Troisièmement, il nous faut affirmer que la foi dans la vérité nous met dans l'obligation de pratiquer la vérité. D'accord? Alors, ça veut dire que notre message, puis moi, je pense que c'est un des endroits où on peut le plus facilement confondre les gens puis les amener à réfléchir. Il faut que j'apporte un message de vérité, mais il faut que je l'incarne absolument. Fait que lorsqu'admettons, j'avais présenté un petit extrait avec Denis Arcan, là. Bon, ben lui, ce qu'il a retenu de l'Évangile, c'est toute cette notion-là de charité chrétienne, du bon samaritain, du Christ qui meurt pour l'humanité, donc qui est un don de soi absolu. Quand j'ai un chrétien qui vient me voir et qui me dit « Yannick, pourquoi est-ce qu'on serait impliqué dans des œuvres de charité? De toute façon, les gens du monde le font mieux que nous. » Je vais aller me pendre. Tu es en train de me dire tout simplement qu'on ne vit pas l'Évangile toute la gang. S'ils font mieux que nous, là, ça veut dire qu'on a passé complètement à côté de la plaque. Ils font mieux que nous. Ça veut dire qu'ils ont plus de compassion, plus de charité, plus d'amour. As-tu l'Évangile dans ton cœur, tableau? Je comprends que l'Église n'est pas là pour régler tous les maux sociaux. D'accord? L'Église n'est pas là pour créer un million d'institutions où on va se perdre à quelque part simplement à faire des bonnes œuvres, puis on ne sera pas là pour annoncer l'Évangile. Ce n'est pas le rôle de l'Église de restaurer toute la société. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Mais si j'allais prendre un café avec vous, si j'étais un petit oiseau, si j'installais une petite caméra, puis que je vous filmais à la semaine longue, de toutes les personnes que vous côtoyez, vous devriez être la personne qui manifeste l'amour et la compassion d'une manière radicale. Je ne suis pas en train de dire que je suis en compétition avec les gens autour de moi, vous comprenez? Mais si on va en bas de ce que Jésus incarnait, ça ne marche pas. Notre société, c'est particulièrement vrai au Québec, notre société a rejeté une religion dans laquelle elle reconnaissait plein de bonnes œuvres, mais elle a dit c'est une gang d'hypocrites. C'est ça? Alors, je ne peux pas accepter que les gens autour de moi me regardent et qu'ils voient en moi de l'hypocrisie. Qu'ils en voient dans des domaines où ils disent « Oui, mais Yannick, tu n'as pas d'amour. Tu me dis, par exemple, qu'un mariage homosexuel, c'est mal. Donc, tu n'as pas d'amour. » Non, là, ce n'est pas ça. Tu ne comprends pas. J'en ai tellement d'amour. Je donnerais ma vie pour n'importe qui, homosexuel, pas homosexuel. Ça n'a pas rapport. C'est une mauvaise compréhension. Mais au contraire, cette personne-là qui sait que je suis en profond désaccord avec elle doit percevoir dans ma vie un amour radical comme celui de Jésus. C'est vraiment un défi pour nous parce qu'on lit les évangiles. Je vous le dis, là, je vous le répète, là, on a passé à travers l'évangile de Matthieu. Pourquoi on a passé à travers l'évangile de Matthieu? Tout simplement parce que je voulais qu'on voit. Ce n'est pas des farces que Jésus dit lorsque Jésus dit « Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, oubliez ça, vous n'irez pas au ciel. » Ce n'est pas des farces lorsqu'il dit « Si quelqu'un vient pour te frapper sur la joue droite, présente-lui la joue gauche. » Ce n'est pas des farces lorsqu'il dit, lorsque Paul va dire qu'un chrétien ne poursuit pas un chrétien. Au contraire, donne-y tout ça, puis il s'arrangera avec Dieu, puis ça finira. Ce n'est pas des jokes. Et donc, on a fait tout l'évangile de Matthieu pour ça. Après ça, on est allé dans le livre des Actes pour dire, ben, quand l'Église, c'est l'Église, ça veut dire que l'Esprit qui était en Jésus est dans l'Église, l'Église est aussi haute. Il nous faut affirmer que la foi dans la vérité nous met dans l'obligation de pratiquer la vérité. Parce que c'est ça l'Évangile, parce que notre société est absolument allergique à cette espèce d'hypocrisie. Moi, que quelqu'un me regarde et me dise, « Regarde, je sais que tu m'aimes, tu es un épais, tu n'as rien compris, mais je sais que tu m'aimes. J'ai fait ma part. » Mais qui me dit, c'est un religieux qui ne se préoccupe pas des gens. Là, il me scie les deux jambes, par exemple. Quatrièmement, il nous faut rendre compte que la connaissance et la pratique de la vérité entraîneront pour nous. Excusez-moi, il nous faut prendre en compte que la connaissance et la pratique de la vérité entraîneront pour nous de douloureux sacrifices. Alors ça, c'est le message à retenir de Jérémie. Ça fait partie de la game, les amis. Moi, j'ai été sauvé parce que celui qui m'a sauvé est mort sur la croix. C'est correct. S'il faut que je meure ou qu'on me méprise ou qu'on me rejette ou que je me sente rejeté dans ma maison, autour de moi parce que j'apporte le message de l'Évangile, c'est correct. C'est très, très correct. En fait, les apôtres disaient que c'est une source de joie. Quel que soit le prix à payer, dernièrement, il nous incombe de continuer à prêcher. Il ne faut pas arrêter. On n'arrête pas jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. On n'arrête pas. L'apôtre Paul qui a écrit, je termine sur cette citation-là. Dans 2 Corinthiens 11, « Cinq fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. Trois fois j'ai été battu de verges. Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Le monde est perdu, mais le Dieu de la Bible existe réellement et la vérité demeure ce qu'elle est. Il nous reste donc une seule chose à faire, aller de l'avant sans fléchir. On va prier. Seigneur, notre Dieu, on veut te bénir. Te bénir, Seigneur, parce que tu nous as laissés ici. Rempli de ton esprit, Seigneur, c'est vraiment un ministère glorieux que celui d'annoncer la parole de réconciliation. Ça me fait du bien, Seigneur, d'être rappelé à l'ordre par Francis Schaeffer. Ça me fait du bien à moi, Seigneur. Ça fait du bien à ton Église de se rappeler, Seigneur, que c'est notre mission. C'est notre mission d'aimer comme des fous cette société, cette culture, les gens autour de nous, de les amener à mourir, Seigneur, et de leur dire la vérité. Aussi négative puisse-t-elle paraître, Seigneur, de leur annoncer ce message qu'un Dieu juste et saint les aime et les appelle à accepter sa grâce. Sans quoi ils comparaîtront devant un jugement divin. C'est notre message, Seigneur, d'annoncer qu'il y a un bien, qu'il y a un mal et que faire le mal conduit de manière absolue certaine à être damné. Seigneur, je te prie de nous faire grandir, de nous aider à assumer tout cela, à porter ça en nous avec joie, puis accepter les moments de tristesse pour devenir des intercesseurs, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Ça fait plaisir. Simplement vous mentionner, la semaine prochaine, on prend une petite pause. Je ne serai pas ici dimanche prochain. Et donc, c'est ça. Il n'y a pas de cours dimanche prochain. On continue tout de suite après le dimanche suivant. D'accord? Merci.